D'Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa numéro 1.
This is Europe number 1.
J'adorcie Maurice Hugel. Je me retrouve au même endroit où j'étais hier soir, c'est-à-dire à environ 50 mètres de la barricade principale, au coin de la rue Pasteur et du boulevard La Ferrière.
Le jour de la fête à
Ça va, mec?
Oui. Tout le monde sont là?
Ah oui, on te regarde.
Ça me paraît comment c'est mou, votre émission.
Oh là là! Oh, cette droite terrible de Monzon!
Ouais!
Ils sont descendus avec une corde pour vérifier si personne n'était tombé au fond du trou. Il n'y avait personne. L'éboulement s'est produit pendant la nuit.
Mais dites-moi, de qui la mise en onde?
Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons.
Ah, bon, signé Pierre Dac et Francis Blanche.
Marc Tronchot.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les enfants d'Europe 1 et à tous les autres. Ces 15 derniers jours, nous les avons passés en compagnie de Dick Rivers. Pendant les 15 prochains, nous allons faire un peu de tourisme gastronomique. Et si l'occasion se présente, la tournée des Grands Ducs, en compagnie d'un invité illustre, connu de tous, un journaliste doté d'une voix de bronze, qu'il mettra pendant 27 ans au service d'Europe numéro 1, puis d'Europe 1. Tiens, avant de l'accueillir, j'ai eu envie de lui faire écouter un reportage diffusé sur l'antenne début des années 60. Reportage signé à cette époque par notre correspondant en Suisse, Henri de Stadelhofen, hors d'œuvre réalisé à l'occasion du Congrès mondial de la gastronomie.
Telles les tribus affamées traversant le désert et apercevant l'oasis, tels les naufragés qui sur un radeau regardent avec envie le tendre mousse terrorisé, telles se présentent ce soir la foule des invités au deuxième congrès mondial de la gastronomie. Imaginez le spectacle. À ma main gauche, la terre promise, le paradis perdu, l'île au trésor, le buffet. Immense, somptueux, avec ses pâtés en croûte dorée, ses gibiers, ses pièces montées, l'argent terni des brochets, la pourpre orgueilleuse des crustacés. À ma main droite, un public affamé mais distingué. 20 siècles de civilisation, réfrène des instincts en retardant l'assaut. Monsieur Roucou, vous êtes là en toque blanche. Qu'avez-vous préparé?
Eh bien, nous avons préparé du foie gras en brioche, des quenelles lyonnaises, de la volaille de Midaille.
Une autre toque blanche, c'est Nandron de Lyon.
J'ai préparé le brochet, quenelles, naturellement, oui. Des quenelles, des pruneaux, un pâté, saucisson chaud
en brioche.
En brioche, et du Jésus. Le Jésus, vous savez ce que c'est? Le Jésus, c'est un gros saucisson. Très gros, du beau, qui est dans le Beaujolais et qui est très sec.
Il n'est pas jusqu'à l'Amérique, qui part elle aussi à la conquête de l'Europe gastronomique. C'est M. Paul Spittler qui présente un stand assez exceptionnel.
C'est pas la même qualité qu'on trouve en France, mais c'est le meilleur que nous avons ici.
Qu'est-ce que vous avez amené, M. Whistler?
Les vins de Californie, six espèces. Nous avons la Brie de Wisconsin.
Le Brie de Wisconsin.
Oui. Aussi le jambon de Virginie.
J'aurais pu mentionner ici une liste de personnalités, de nombreux chevaliers, des baillis. Mais croyez-moi, il est des moments où il vaut mieux troquer le microphone contre la fourchette. Ici Henri de Stadelhofen à Genève, Europe numéro 1.
Bonjour Christian Millot.
Bonjour Marc.
Critique gastronomique, animateur d'émissions consacrées au tourisme, à la cuisine. Pendant des années, la radio et la cuisine, ça a toujours fait bon ménage, non?
Oui, j'espère, oui, ça donnait faim en tout cas, oui. Ouais.
À quel moment se forme le couple ou le duo, c'est le terme qu'on choisirait je pense en cuisine, qui va devenir une référence et un guide sans lequel il n'était plus question de préparer ses vacances ou ses week-ends?
1960, à Paris Presse, où j'étais rédacteur en chef adjoint, et Henri Gault était grand reporter, puis un jour... Pierre Charpy, qui était directeur de Paris Presse, qui était un homme très attachant, oui, il était très haut également. Oui,
grand journaliste du Club de la Presse quelques années
voilà,
plus tard.
Voilà, très haut et en couleur aussi, parce que, bon, c'était un franc buveur.
Oui, il aimait la bonne chère aussi. Oui.
C'était une grande intelligence, il connaissait admirablement la politique. Et il y avait Henri qui était doué, incontestablement, qui écrivait bien, etc., mais qui voulait pas faire grand-chose. Alors un jour, Pierre Charpy dit, au fond, pourquoi est-ce que on vous donnerait pas une page dans Paris Presse? Parce qu'il faut dire qu'auparavant, nous avions publié chez Julliard le guide de Paris. Et ça avait été un grand succès. On en avait vendu 200 000, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui, à l'époque, était pas mal, hein. C'était même bien. Et voilà. Alors, elle dit, mais pourquoi, je lui dis oui, ce serait une très très bonne idée. Et puis, il me dit, comme ça, Henri va travailler. Alors, je dis, j'espère. Et puis, ça a commencé comme ça. Alors, ça, c'était, la presse écrite.
Et Europe 1, vous y venez comment?
Et Europe, c'est autre chose.
Et Europe 1, vous y venez comment, alors?
Je sais pas si je dois le dire.
Bah si, bah si.
J'ose pas, j'ose pourquoi pas, parce qu'il y a des noms qu'on prononce pas, quand même, dans
si,
les stations.
Si, monsieur, on peut y aller.
Non, je plaisante.
Vous veniez d'RTL, c'est ça?
Voilà.
Que vous n'osez pas me dire. C'était... Bah oui, c'est arrivé.
Et je me souviens plus très bien. Ah ben si, si, je me souviens très bien, bien sûr. Puisque j'ai fait beaucoup de journaux, hein, dans ma jeunesse. J'ai commencé à 19 ans au Monde. Je faisais la politique et de l'économie. Enfin, bref, je vais pas vous raconter ma vie, quand même, bien que je sois là pour ça. Et je connaissais Jean Farand, bien sûr, qui était le rédacteur en chef du Monde. Et c'est lui qui nous a fait venir, après donc le succès du Guide de Paris. Et je sais pas trop ce qu'on venait faire là-dedans, mais en tout cas, on faisait une chose formidable, il faut bien le dire, le direct réel avec les auditeurs. C'est-à-dire qu'on se les recevait en plein la poire, vous voyez, on savait pas du tout qui on avait au bout, ce qui était très excitant et très très amusant.
Bon, alors après cet épisode RTL, bon.
Eh bien, Lucien Maurice.
Comment ici?
Ah ben nous on cherchait rien, hein, voilà. C'est Lucien Maurice que je ne connaissais pas.
Directeur des programmes.
Directeur des programmes et qui était un personnage aussi tout à fait exceptionnel. Une passion de Sylvain Fouara.
On va en parler.
Président d'Europe. Et voilà, on se retrouve dans le bureau, là, au premier étage. Et puis, dit, bon, bah, ça vous voulez pas venir avec nous, là, Europe, et tout. Dit, bah oui, pourquoi pas, bien sûr. Pour être franc, je préférais Europe, hein, parce que c'était quand même plus jeune, plus animé, plus... Et puis, bon, bah voilà, on va vous donner une émission le samedi après-midi. Alors moi, je faisais tous les deux un peu la gueule, parce que le samedi après-midi, quand même, on aime bien partir en week-end avec nos enfants respectifs. Mais enfin, bref. Je vais vous donner 3 heures l'après-midi, 3 heures. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 heures? Eh ben, vous allez répondre aux questions des auditeurs, puis vous ferez ce que vous voudrez. Ah, ça a été magique. Vous ferez ce que
totale liberté.
Total, et ça n'était pas un mensonge. Alors, j'ai accepté, mais quand même, j'ai dit, Lucien, une condition. Ah bon? Il me regarde, il m'a dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Encore voilà deux petites stars qui vont se prendre pour des super vedettes.
Et la condition, c'est
et
quoi?
Qui vont me demander des millions. Alors j'ai dit, oui, la condition, c'est qu'il faut pas que vous nous payiez. Ah bon? Et pourquoi? Je lui dis, parce que vous allez faire beaucoup mieux que nous payer. Primo, comme vous n'allez pas nous payer, vous allez nous aimer beaucoup. Bon. Et deuxio, comme nous étions en train de lancer le magazine Gomio, et ben voilà. Comme ça, un échange de politesse. Nous, on travaille gratos pour vous. Et puis, nous avons l'antenne. On va pas en abuser, mais voilà.
Et ça s'appellerait aujourd'hui, dans une régie publicitaire, une sorte d'échange marchandise.
Oui, alors, c'est ça.
Vous l'avez évoqué à l'instant, il y a, parmi toutes ces personnalités, tous ces personnages marquants que vous allez trouver à Europe 1, il y a un certain Sylvain Fouara. C'est un des pères fondateurs, c'est un homme de la terre, un homme d'affaires avisé dont vous gardez un souvenir, à l'évidence, plus qu'ému.
Oui. Il pleurait beaucoup, mais je vais pas me mettre à pleurer, mais je parle de lui avec beaucoup de tendresse.
Attendez, ça va vous faire plaisir, je résiste pas. On a retrouvé une émission. Je vais vous en proposer un extrait. C'est une de ces émissions que vous animiez avec Henri Gault. Et ce jour-là, votre invité, précisément,
c'était le président.
Monsieur Fouara.
Je crois que nous avons une question.
Oui, je vous rappelle que vous nous appelez toujours à Alma 9000 pour poser des questions sur le Périgord au président Fouara et à nous-mêmes.
Sylvain Fouara, vous êtes un passionné de votre pays, mais aussi vous avez de bonnes raisons de l'être, en particulier à cause de sa gastronomie. Le Périgord, c'est le royaume du foie gras, c'est le royaume du confit, des quantités de choses du sud-ouest, mais aussi surtout de la truffe. Est-ce que vous vous occupez personnellement de la truffe?
Ah, beaucoup. Je m'occupe beaucoup de la truffe parce que la truffe avait presque disparu du Périgord, n'est-ce pas?
Allô?
Allô?
Bonjour madame.
Bonjour madame.
Monsieur.
Quelle est votre question?
Eh bien monsieur, j'avais demandé qu'on me donne des renseignements sur l'origine de la truffe.
L'origine remonte très loin, n'est-ce pas? On en trouve sur les tables des rois, en Grèce par exemple, dans des temps très reculés. Mais c'était quand même en Périgord où les truffes ont toujours été reconnues de la meilleure qualité, c'est-à-dire ayant dégageant le plus grand parfum.
Question de terre, alors?
C'est une question de terre, c'est certain.
Est-ce qu'on peut cultiver les truffes?
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'elles sont belles, celles qu'on cultive?
Ah, mais celles qu'on cultive, ce n'est pas plus que les autres, ni plus ni moins.
Mais est-ce qu'on cultive les truffes ou est-ce qu'on cultive les chênes truffiers?
On cultive les chênes truffiers, ouais, on ne cultive pas les truffes, oui. N'est-ce pas?
Ce sont les arbres, alors que l'on
cultive. La truffe pousse généralement à côté de la racine d'un chêne trufficole, n'est-ce pas? Les gens sont souvent désespérés, moi le premier, n'est-ce pas, qui fait tout ce qu'il est possible pour faire pousser mes chênes, alors je me demandais si vraiment ils allaient pousser, n'est-ce pas? Il y a 3 ans qu'ils sont plantés, et bien cette année, ils sont partis en flèche, ils ont fait des pousses entre 0,50 m et 1 mètre de hauteur, n'est-ce pas?
Quand est-ce que vous pensez que vous aurez des truffes?
Il n'y a pas d'expérience qui ait donné des truffes avant la 7e, 8e année.
Vous savez, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui croient que les truffes, ce sont les cochons qui les cherchent. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Hein.
Et il y a les deux. Il y a les deux, n'est-ce pas? Le cochon est très pittoresque, n'est-ce pas? C'est très amusant, n'est-ce pas? Moi, je passe des samedis après-midi avec une truie, avec des chiens. C'est absolument passionnant. Mais les truffes sont très gourmandes, n'est-ce pas? Elles aiment beaucoup les truffes. Elles les cherchent pour elles, elles ne les cherchent pas pour le propriétaire. À l'exception, j'ai un ami qui s'appelle Ligoni en Adaliac, qui a une truie qui a été tellement bien dressée, n'est-ce pas, qu'avec son museau, elle enlève la terre 5 mm par 5 mm, jusqu'à ce qu'elle aperçoit la truffe sans y toucher, juste à ce que la truffe affleure. À ce moment-là, elle regarde son maître lui donne du maïs, elle se met à croquer le maïs, 3 coups de piochon en triangle pour faire monter la truffe, elle la regarde et elle va en chercher une autre. Mais je ne connais que celle-là,
elle
n'est-ce pas?
Elle a peut-être mal au foie, vous voyez, elle ne supporte pas la truffe.
Christian, Sylvain Floirat, tel qu'en lui-même, c'est un bonheur d'avoir un interlocuteur pareil dans une émission, non? La truffe, il connaissait bien.
Vous ne trouvez pas qu'il aurait dû faire de la radio, hein,
ah,
parce qu'il est excellent?
Non seulement il l'a
oui,
en
alors
a fait,
un homme, ça n'existe presque plus malheureusement, des hommes comme lui, sortis de la terre, il disait toujours... Ah, mon petit gars, parce qu'il appelait toujours. Ah, mon petit gars, tu vas voir. Je t'emmène dans le Périgord, et puis là, on se mettra le cul sur le banc. Alors, ça voulait dire qu'on allait dans des auberges tenues par des dames périgourdines, et puis on allait, évidemment, manger tout ce qu'il y avait, le foie gras, le confit, les truffes, etc. Et c'était un homme qui était resté comme ça. Le même homme qui vous dit, viens mon petit gars, on va aller se mettre le cul sur le banc, et le lendemain, il était à l'Élysée, chez le président de la République, parce que c'était un personnage considérable.
Il a été aussi bon dans les affaires que dans la truffe?
Oh ben, je crois qu'on en sait quelque chose ici, effectivement. Il a été assez génial. Mais il était c'était très drôle comment il opérait. Ses bureaux étaient tout près de l'Étoile, de Presbourg, où très gentiment, d'ailleurs, il nous avait accueillis, nous, Gomillot, pour notre magazine, ce qui était très flatteur pour nous, nos conseils d'administration, présidés par Sylvain Floirat, avait lieu là-bas, ce qui était un cadeau en or. D'où le bon investissement de ne pas avoir demandé d'argent. Et ça, ça lui plaisait bien. Et il avait un bureau assez grand, bien sûr, un beau bureau. Et juste à côté, il y avait une toute petite pièce, une sorte de sas dans lequel vous avez pénétré. Et je me rappelle, plusieurs fois, j'ai vu là, il y avait des bobines extraordinaires. Ils étaient 3-4, tous avec l'accent périgourdin, comme vous venez d'entendre un échantillon.
Et que vous faites très bien, d'ailleurs.
Alors, moi, je demande au président, je dis, mais dites-moi, c'est des gens du pays, là, qui étaient... Parce que j'attendais mon tour, hein, ouais. qui étaient là chez vous. Ah oui, ça, c'est... Alors, il me cite les noms, c'est un tel, et ça. Et j'ai appris, c'était ses copains. Et sans lesquels... Il ne prenait pas de décision importante. C'est formidable. Un homme qui n'oublie pas son pays, qui n'oublie pas ses amis, et qui les fait participer comme ça à sa vie, une vie qui les dépassait de très loin.
le Shadow Cabinet de Sylvain Foira.
Oui, c'est le Shadow Cabinet, c'est un bon mot.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1 réunis autour de Christian Millau, qu'on ne présente pas. On évoquait Sylvain Foira à l'instant. Il a toujours considéré Jean-Luc Lagardère comme quelqu'un de sa famille, non?
C'était très drôle, même un petit peu embarrassant, si vous voulez. Je venais de voir le président. Alors, quand j'allais le voir, c'était, on parlait du Périgord, bien sûr, on parlait de ses truffes. Il disait tout à l'heure que, elle commençait à montrer le bout du nez, à 8 ans. Il m'a emmené dans son Périgord voir, il avait pris un domaine, ça lui coûtait cher d'ailleurs, il le faisait pas pour lui, hein, il le faisait pour le pays, pour le Périgord. Et il avait des chênes truffiers, tout ça, très bien entretenu, machin. Et, c'était la 11e année, je me rappelle. Et on n'en voyait pas la queue d'une. Et du coup, il commençait à se lasser un peu. Alors, il voulait plus trop s'en occuper. Il l'a cédé, bien sûr, au département. Et 2 ans après, ça fournissait à tout va. Alors, je trouvais ça quand même assez drôle. Alors, je vais donc dans son bureau. Et puis, on parle et tout ça. Et puis, il y a une porte qui s'ouvre. Et puis, je vois arriver un jeune homme. Enfin, un homme jeune, disons. Très bien, beau gosse, hein. Qui s'approche. Je sais pas qui c'était du tout. Et il me dit, ah, je te présente Jean-Luc. C'est mon fils. Je le regarde. Moi, je savais qu'il avait des enfants, mais je savais pas que Jean-Luc, c'était son fils. Et voilà comment il présentait Jean-Luc. C'est mon fils, c'est formidable.
Il est considéré comme ça.
Parce qu'il avait choisi Jean-Luc pour diriger tout le groupe, ce qui n'était pas rien. Et il marchait comme ça, il marchait au cœur, je veux dire, il marchait au coup de cœur. Lucien Maurice, c'était, je disais tout à l'heure, c'était une passion pour lui, parce qu'il adorait Lucien. Et voilà, c'était spontané. Alors en même temps, on lui faisait une réputation, qu'est-ce que vous voulez, un homme d'affaires, il est là pour quoi? Pour faire des affaires et pour gagner de l'argent et en faire gagner...
Pour faire du gras, comme il disait.
Pour faire gagner de l'argent à ceux qui travaillent pour lui. Et alors il disait toujours, alors mon petit gars, où il est le gras? Quand je lui parlais des résultats du magazine, où il est le gras?
Tiens, pour rester dans les spécialités du Sud-Ouest, parce que oui. Entre le Gascon Jean-Luc Lagardère, l'homme du Périgord, Sylvain Floira, on est quand même bien dans cette région. Pour faire un clin d'œil aussi à un grand monsieur d'Europe 1, extrait de Bon Appétit la France, animé par celui qui s'était déjà illustré avec Bonjour Monsieur le Maire, un certain Pierre Bonte.
Ah oui.
Bonjour, je vais vous emmener aujourd'hui à Castelnaudary, parce que Castelnaudary, petite ville de l'Aude, est la capitale du cassoulet, comme vous le savez peut-être, et qu'en ce moment même s'y déroule une foire gastronomique principalement dédiée à la gloire de cette spécialité locale. Certes, il existe d'autres cassoulets que celui de Castelnaudary. Il y a le cassoulet toulousain, celui de Carcassonne, mais ils n'ont pas la même composition. Le cassoulet de Castelnaudary est à base de porc et de confit d'oie, alors qu'à Toulouse, par exemple, on y ajoute du mouton. De toute façon, comme va vous le dire le président du syndicat d'initiative de Castelnaudary, Castelnaudary est vraiment la patrie du cassoulet.
Oui, oui, oui. Castelnaudary est la capitale mondiale du cassoulet et personne ne pourra dire le contraire. J'affirme que le cassoulet est né à Castelnaudary durant la guerre de 100 ans. La famine menaçait notre ville assiégée et les habitants décidaient de grouper sur la place Saint-Michel les provisions constituées en majorité par des haricots et du confit qui sont les bases essentielles de notre spécialité gastronomique.
Alors on a mélangé le confit d'oie, les haricots et le cassoulet était né.
Pour la première fois par conséquent, on a fait ce mélange sans penser peut-être qu'un jour il aurait une notoriété mondiale. Ce cassoulet évidemment n'était qu'un embryon de ce que l'on connaît aujourd'hui, puisque de nos jours, faire un cassoulet demande 48 heures de travail.
Oh, cassoulet, per festeggiare les souvenirs de la mongetto, je vais et bien, te cantare in time en como douza, cassoulet, bigarata zagarin, bimbo castanau, Bibol bi claret, bibol et cassoulet.
Oh cassoulet, pour fêter le souvenir des haricots, jeunes et vieux te célébreront, car ils t'aiment comme la prunelle de leurs yeux. Ils t'arroseront avec du vin, à l'exclusion totale de l'eau, qu'il soit rouge ou qu'il soit blanc. Vive Castelnaudary, vive le vin clairé, vive le cassoulet.
Voilà, et pour vous, auditeurs qui n'avez pas l'image, Christian Millau est mort de rire après avoir écouté ça. Un point d'histoire tout de même, Christian. Est-ce que le cassoulet est bien né pendant la guerre de Cent Ans à Castelnaudary?
Alors, je vais vous dire, oui, j'y étais justement. le vrai cassoulet, hein, ouais. C'est forcément le nôtre, mais pas l'autre. La vraie bouillabaisse, c'est
encore une question de clocher,
c'est
toujours
forcément
comme ça,
la
France,
mienne, hein. Mais c'est pas l'autre. Alors, ce sont des sujets dont on en débattra jusqu'à la fin des temps, bien entendu. Alors,
la fin des haricots, vous voulez dire?
Le petit coup. Alors non, l'histoire des haricots, oui. L'histoire des haricots, les cocos. Il est prouvé que ces cocos, ils sont venus d'Espagne, finalement. Ah. Ils sont passés par-dessus les Pyrénées. Et c'était en Espagne qu'on les cultivait. Et ils ont envahi agréablement le sud-ouest. Mais alors, moi, ça me fait toujours tant de rire d'entendre. Puis d'abord, quand on entend un homme pareil, on a envie de casser la croûte avec lui et puis de boire un coup avec lui. C'est des gens formidables. Mauvaise foi totale. Mais une bonne foi dans la mauvaise foi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils croient tous à ce qu'ils disent. Vous allez à Marseille, la bouillabaisse, c'est la même chose. Il n'y a pas deux bouillabaisses. Il n'y en a qu'une seule. Ah non, l'autre, c'est pas orthodoxe.
C'est celle qui est faite sur le côté gauche du Vieux-Port et pas celle du côté droit,
oui,
c'est ça.
Mais. C'est ça. Mais c'est tout l'amusement, c'est la richesse de la France. Quand vous allez vous balader, ce que j'ai fait, parce que j'ai fait plusieurs fois le tour du monde pour mon travail, aux États-Unis, quand vous pouvez faire, j'adore les États-Unis, hein, ce que je vais dire n'est pas du tout anti-américain, bien que ce soit à la mode. Moi, je suis pro-américain. Une fois, je l'ai dit, c'est terminé. Bon. Mais j'ai traversé comme ça en voiture d'est en ouest. Vous pouvez faire 3 000 kilomètres. Ben, je vous assure que vous, il y aura pas de discussion à propos du hamburger, hein. Ils vont pas dire, c'est ici que le vrai est né, que le véritable est né. Parce que nous avons, nous, une telle richesse dans ce pays, il faut en être bien conscient, et c'est vrai que ça vaut la peine de se battre un peu pour ça.
Un spécialiste du terroir, comme l'était Europe 1, Pierre Bonte.
Ah, moi j'aimais beaucoup Pierre, oui.
C'est un formidable complice pour le journaliste gastronomique
C'est un peu dommage. Enfin, dommage, je sais pas, non, il avait son émission, nous avions la nôtre, nous avions d'excellents rapports avec Pierre, on allait déjeuner avec lui, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, il connaissait la France d'une manière merveilleuse. On n'a jamais travaillé ensemble, en vérité. On l'aurait pu, hein, on aurait pu faire je sais pas quoi, mais...
Tous les cas, l'avenir de la gastronomie française, ça va être un sujet de débat, un sujet d'ailleurs qu'on va retrouver dans certaines de vos émissions, que je vais vous faire écouter, enfin, en tous les cas, on va en entendre un extrait. C'est un débat sur l'avenir de la gastronomie française, c'était dans le cadre de votre émission et c'était avec un expert britannique, c'était en 1973.
La France gastronomique est-elle toujours digne de sa réputation? Voilà le thème de notre débat de ce soir et face à face, le journaliste anglais John Hardagg, auteur de La Nouvelle France et qui constate lui un certain déclin de notre cuisine, et de l'autre côté, Henri Gault et Christian Millau, auteurs du guide 73 Gault et Millau de la France. Christian Millau et Henri Gault qui pensent, eux, que notre gastronomie ne s'est jamais portée aussi bien.
John Hardagg évoquait un souvenir de 1946, et en 1946, vous veniez en France, et moi j'étais tout jeune étudiant, et j'allais en Angleterre pour la première fois. Et je me souviens, j'avais apporté à la famille qui me recevait une boîte de foie gras, une conserve de foie gras, je leur ai montré cela, et je n'ai fait aucun commentaire. Et j'ai attendu le moment du dîner, et on avait mis des petits plats dans les grands, et au début du repas, la porte de la cuisine s'ouvre, la maîtresse de maison arrive précédée d'une fumée absolument extraordinaire, et elle avait fait cuire à la poêle ce foie gras, ne sachant du tout aucune idée de ce que ça pouvait être, et c'était évidemment carbonisé, et nous avons été obligés de manger et trouver ça absolument délicieux. Alors, je voulais raconter cette anecdote tout simplement parce que, vous voyez, chacun son ses malheurs.
Bien sûr, si je peux vous couper, mais j'ai vu des Américains à Paris qui mangeaient des escargots avec les strawberry milkshake. C'est-à-dire avec des... Ils buvaient les milkshakes de fraises avec les escargots.
C'était du lait à la fraise avec
du lait à la fraise. L'autre problème, c'est le touriste étranger qui arrive avec plus de l'argent que de bon goût. Mais il y a eu, je peux vous donner une anecdote, il y a eu certains restaurateurs qui ont résisté à ça. Le fameux Monsieur Point du Pyramide à Vienne. Je connais des Français qui ont rencontré des touristes américains sur la grande route là, auprès de Valence, au sud de Vienne, et ces Américains disaient, « Say, where can we eat round here? Où est-ce qu'on peut manger d'ici ?» Ce sont des Américains très riches dans une grande, grande voiture, et mes amis ont dit, « Alors, il y a le meilleur restaurant de France qui est à quelques kilomètres d'ici. » Alors, les Américains ont opté pour un tel ou un tel, plat, avec, suivant les conseils de Monsieur Point, et des plats mijotés, des plats formidables qu'on trouve dans ce restaurant-là. Et finalement, Monsieur Point a dit, « Alors, messieurs, qu'est-ce que vous voudrez boire avec ça ? » Et les Américains ont dit du Coca-Cola.
Oui.
Et M. Point a répondu,
oui,
sortez.
Bravo
pour lui.
Christian Millot, il y a un bon ou y a un mauvais goût, ou alors c'est vraiment
non,
une
affaire
de culture.
Non, mais je dirais plus la même chose. J'ai vraiment bien connu les États-Unis, j'ai fait plusieurs guides aux États-Unis, même de nombreux guides aux États-Unis. J'ai vu la transformation incroyable. Alors, je dis pas que tous les Américains se nourrissent, mais est-ce que tous les Français se nourrissent aussi d'une manière raffinée, etc. Bon, mais aux États-Unis, je peux vous dire qu'il y a d'excellents restaurants aujourd'hui. Bon, un certain nombre qui sont tenus par des Français, mais pas simplement. Il y a beaucoup de cuisiniers, de chefs américains qui sont épatants. Il y a toutes sortes, bon, comme partout, il y a des Japonais, etc. Il y a des gens de talent partout. Et c'est ça la différence, si vous voulez. Quand nous avons commencé, c'est vrai, puis on est quand même de drôles de cocos, les Français. On a ce côté coco-rico, il n'y a que nous, les autres, ça n'existe pas. Et je dois dire, et j'en suis fier, dans la préface de ce guide de New York que nous avions fait, j'avais fait tout un texte pour dire arrêtez de rire un peu des Américains, vous allez voir un peu ce qu'ils nous réservent. Ils vont faire des vins formidables et ils vont devenir de bons experts. Et ben c'est exactement ce qui est arrivé. Vous avez aux États-Unis autant proportionnellement à mon avis autant de gens qui connaissent et le vin et la bonne nourriture et les restaurants etc qu'en France. Vous avez la même chose maintenant dans beaucoup de pays, hein. C'est normal. Qui aurait pu dire que moi je suis allé en Australie à part le kangourou je voyais pas trop ce qui se passait, puis on voyait à table des colosses de 2m20 en hauteur et largeur qui se tapaient des morceaux de viande énormes. On avait vraiment l'impression que c'était des brutes totales. Eh bien, en Australie, vous avez aujourd'hui de très bons restaurants et ils ont des magazines de premier ordre et voilà. C'est une révolution totale. C'est normal que ce que vous voulez. On n'est pas les seuls dans le monde. Et ça, c'est le mauvais côté des Français parce que un jour ou l'autre, ben, on se réveille et puis on se dit, ben oui, non, on n'est pas les seuls. Il y en a d'autres qui savent faire du vin, il y en a d'autres qui savent faire ceci et cela. Voilà.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1 avec Christian Millot pour ce dimanche. Est-ce qu'aujourd'hui vous referiez cette émission, Christian ? Est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter, j'allais dire, une sorte de cuisine mondiale
bien sûr.
Base de couscous, de pizza, de kebab, d'hamburger ?
Qu'est-ce que nous faisions ? Nous racontions nos voyages. Hein? Alors, c'était une émission à la fois tourisme et c'est l'image de Gomillou. C'est pas uniquement, on nous a toujours fait une image gastronomique uniquement, mais non, c'était pas ça. Le magazine, c'était moitié gastronomie, moitié tourisme. Bon, mais c'était de la gastronomie en balade aussi, hein. On allait au bout du monde, et ben, on racontait ce qui se passait, etc., etc. Donc, on était tout très, très ouverts, et, on prenait des invités de toutes sortes, enfin, des Turcs, des Chinois, des Américains, etc. Non, je changerai pas grand-chose. Simplement, je redirai ce que je viens de dire, savoir que un peu de modestie, ça fait pas de mal.
Il n'y a pas que dans l'émission d'ailleurs. Hein. Il y avait aussi dans les chroniques un exemple, celle qu'on a retrouvée, chronique qui est signée de votre plume. Pour marier tourisme et gastronomie, elle est consacrée, cette chronique-là, à la cuisine africaine.
Euh... Bonjour Christian Millot.
Bonjour.
Alors dans la froidure de l'hiver, on rêve quoi, de soleil, donc d'exotisme, d'épices et de saveurs requinquantes. Est-ce que vous avez des petites choses à nous proposer?
Du nouveau, bah oui, on a toujours. Et là, je vous parle toujours, on ne parle jamais de la cuisine africaine. Hein. Bon, eh bien, il y a une table africaine à Paris, une nouvelle table qui mérite votre attention, notre attention. Elle se cache dans une petite rue du 11e arrondissement, et si son décor de velours rouge, beaucoup de velours rouge en Afrique, hein, évoque plus la Traviata que la Casamance, est en tout cas une excellente initiation aux saveurs pimentées, épicées du Sénégal ou du Cameroun, avec une pointe vers les Antilles. En Maca, le gentil patron de Cœur Maca, à chaque fois que j'entends Cœur Maca, j'ai l'impression que c'est breton, mais non, c'est africain, se fait un plaisir de vous guider dans le dédale de ses spécialités, dont on retiendra par exemple les soya, qui sont des petites brochettes de veau bien relevées, le womoyo, une dorade à l'oignon, tomate et piment, le ndolé, variété d'épinards aux crevettes, le poulet yassa, mariné au citron vert et cuit à la braise, et tout cela servi le soir aux belles panthères noires d'une clientèle franco-black plus 16e que Bastille.
Alors l'adresse de Cœur Maca, c'est ça?
Cœur Maca.
Cœur Maca.
Oui. C'est 5 rue Guillaume Bertrand dans le 11e, et le téléphone est le 43 57 43 95, je répète, 43 57 43 95, c'est ouvert le soir jusqu'à 1h.
Merci.
Merci.
Ben voilà une chronique qu'on n'entendait peut-être pas sur toutes les radios à ce
moment-là. Je crois pas, non.
Hein?
Non.
Pourquoi?
Mais vous savez, c'est curieux. Personnellement, j'avoue, j'ai eu un échec. Bon, ça m'a pas empêché de dormir, hein, mais je pensais que on pourrait faire de la télé aussi. C'était peut-être pas une mauvaise idée. Il y avait des émissions gastronomiques en Allemagne. C'est dire. Il y en avait au Japon.
Il y a eu vraiment l'hiver en France, non?
Oui, mais ça c'est de chef, un chef. Je veux dire, une mission. Je parle d'une mission de journaliste,
d'accord.
Parce que moi, j'ai toujours été journaliste. Hein, je ne suis pas cuisinier. Eh ben non, ça n'a pas collé parce que on a eu des propositions et puis on nous a dit ah oui mais alors ça vous ferait de la publicité. Alors ça je trouvais que c'était une réponse hallucinante parce que dès que vous passez à la télé pour un disque ou un livre ou n'importe, ça vous fait forcément de la publicité. Et même si vous dites rien et vous montrez votre bobine, ça vous fait aussi de la publicité. Donc ça n'a jamais marché. Ça m'aurait plu. Alors je vais vous dire une chose. Ça me fait plaisir de, parce que vous savez, c'est Jean-Luc Petit-Renaud qui m'a succédé. Ça me fait plaisir parce que je me dis, ben tiens, voilà, il fait ce que j'aurais eu envie de faire. J'aurais peut-être pas fait aussi bien que lui, d'ailleurs. Mais on s'est passé un peu le fil, vous voyez, le fil rouge, voilà. Et je suis content qu'il assume ce poste qui est important parce que ça fait connaître beaucoup de gens, beaucoup de choses, beaucoup de gens. Alors, il y a radio, télévision, c'est pas du tout incompatible.
On parlait tout à l'heure de ces personnages que vous avez eu l'occasion de rencontrer au tout début dans les couloirs d'Europe. Manifestement, vous entendiez bien, c'est ce que vous m'avez raconté quand on s'est vu pour préparer cette émission, avec certains humoristes et notamment, il y a eu Francis Blanche.
Oh bah, comment ne pas s'entendre. Bah, il me faisait hurler, enfin, il faisait hurler de rire.
T'es un gastronome, lui?
Je dirais pas vraiment, il mangeait bien, mais on parlait pas de ça en vérité quand on se voyait, c'est drôle, hein. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on pouvait rire. Et pour moi, Europe, c'est un éclat de rire qui a duré 27 ans, quoi. Voilà. Et je continue encore à rire, du moins à beaucoup sourire à ces souvenirs-là, parce que les dimanches matins avec Jean-Yann. Les prêches de Bossuet, c'était formidable, et toutes ces blagues qu'il a pu faire. Et ça, c'était Europe, c'est l'image d'Europe, vous voyez. On n'a pas tellement d'occasion de rire dans la vie, eh bien, on ouvrait Europe et on s'amusait.
Eh ben, on va s'en donner
une
occasion
de... Passé, hein, attendez, c'est méchant,
on va s'en donner une occasion de rire avec Francis Blanche, un de ces canulars téléphoniques qu'il affectionnait tant et dont il fut un peu l'inventeur sur Europe. Quand Francis Blanche appelle le responsable d'une station-service, cela donne ce qui suit.
Allô, c'est le directeur de la station.
Comment? Bonjour, monsieur.
Dites, voilà, je voulais vous demander un service. C'est un peu bête. Il y a une voiture qui va s'arrêter chez vous d'ici 4-5 minutes, quoi. Une petite Floride blanche. C'est ma femme.
Oui.
Alors, c'est idiot, hein, on s'est un peu disputé, alors si vous pouviez lui demander, quoi, de rentrer, quoi, ça va s'arranger. Ça vous ennuie pas?
Oh, mais moi, je veux bien vous faire votre commission, monsieur.
Madame Isoulet, c'est une Floride blanche.
Bon, d'accord.
Mais alors, si des fois, elle dit non, vous savez ce que c'est, vous savez comme elles sont les femmes.
Oui.
Alors, si des fois elle dit non, je sais pas, mettez pas trop d'essence dedans, quoi.
Hein?
Oui. Ben vous pouvez pas me rendre ce service-là, alors ?
Si, mais si, monsieur, si, monsieur, comptez dessus.
Ben alors ?
Maintenant, là, on a une qui arrive, là.
Ah, une Floride blanche ?
Ah non, c'est une Floride bleu pétrole.
Ah bon ? Non, mais est-ce que franchement, vous êtes décidé à me rendre ce service ? Sinon, je vais agir autrement.
Je fais le nécessaire, je vous dis qu'elle vous rappelle tout de suite.
Bon, d'accord.
Ou alors, je vais dire de rentrer immédiatement. Et...
Voilà. Au besoin, vous pouvez pas mettre un petit peu de sucre dans le réservoir ?
Oh, ça, non, on peut pas, non, mettre du sucre dans le réservoir, non, mais ce qu'il y a, on mettra pas beaucoup de carburant, quoi.
Oui.
Est-ce que vous avez le numéro de matricule de la voiture ?
Oui. 17.
17.
24.
17, 24.
HL 78.
HL 78.
S'il vous plaît.
HL ?
Oui.
Le L, comme le chien.
Non, c'est Simone qu'elle s'appelle.
Ah, Simone ?
Oui.
Non, mais... Le numéro de voiture.
Oui. Ah ben, elle n'a pas de nom.
Hein?
C'est une Floride. Alors, je compte sur vous, enfin, parlez-lui comme si c'était pour vous, comme si c'était à vous que ça arrivait, quoi.
Ouais.
Hein?
Ouais, d'accord.
Vous lui dites, essayez de l'émouvoir un peu, lui dire que je ne pensais pas ce que je lui ai dit. Je lui ai dit qu'elle ressemblait à sa mère, mais... C'est...
Vous savez... Réellement, hein, je ne veux pas vous donner mes condoléances, mais enfin, vous savez, une femme, hein, quand on en a marre d'un bonhomme, elle faut...
Mais oui, mais moi je l'aime bien, vous comprenez, c'est une dispute comme ça arrive souvent.
J'aimais bien si vous vous êtes disputé, ça.
Mais je suis sûr que vous aussi ça arrive de vous disputer avec madame.
La dispute après ça se passe sur l'oreiller, moi.
Oui, d'accord, mais je dis pas non plus, je suis pas contre.
Ben oui, ben...
Vous lui dites que je lui fais un gros bisou, elle reviendra.
J'ai énormément de travail, hein.
Oui, non, mais vous avez le temps de lui dire que je lui fais un gros bisou, quand même.
Allez, bonjour, monsieur.
Au revoir, monsieur.
C'est sympa, ça, non ?
Mais c'était la gentillesse, c'est ça. Moi, je crois que c'est difficile d'être drôle. On peut dire beaucoup de méchanceté en étant drôle. Mais il faut toujours que derrière, il y ait ce petit quelque chose qu'on peut appeler tendresse, qu'on peut appeler aimer les autres, etc. Je crois que c'est la clé de la drôlerie. Parce que sinon, on est méchant, tout simplement, et c'est pas agréable d'entendre des gens méchants.
Et la clé de la radio, c'est l'auditeur, et vous en savez quelque chose, parce que ça a été la clé aussi du succès de l'émission.
Ben, c'est eux qui faisaient le boulot, en grande partie, vous savez. Alors, ils nous fournissaient des occasions de rire, quelquefois, formidables. Je me rappelle un jour, je peux vous raconter une... Anecdote. Vous savez, il y avait toujours, mais eux ne sont plus là. Il y avait Jean Troisgros qui est mort, Pierre Troisgros qui est toujours là, mais enfin il a passé la main à son fils. Et à l'époque, Troisgros c'est une institution. Et les gens qui venaient des États-Unis rien que pour aller dîner chez Troisgros. Hein,
à Rouen.
Alors bref, on ne sait plus si c'était une interview, on parlait de Rouen. Et au téléphone, il y a un monsieur un peu sec comme ça qui dit dites-moi, moi je suis allé nous étions plusieurs là 8 ou 10 je crois. On est allé dîner à Rouen et on était malades comme des chiens. Oh, je dis attendez, racontez pas une chose pareille parce que s'il y a des gens honnêtes en France, c'est
tout ça en direct. Hein.
Ce sont les en direct. Ce sont les Troisgros. Ah, mais écoutez, moi je sais ce que je dis, je suis médecin et c'était un groupe de médecins. Oh là là, j'entends ça, je dis, mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous êtes en train de détruire complètement la réputation de Troisgros. Alors, je dis, ben écoutez, on se reverra, je m'occupe de cette affaire. Alors, j'appelle Troisgros, Pierre, ce que je lui raconte, il avait entendu parler, bien sûr, déjà de l'interview. Enfin, du passage à Europe. Et alors, il me dit, oh là là, ceux-là, mais oui, bah, je comprends. Ils sont arrivés, ils étaient bourrés comme des petits pois, déjà. Ensuite, ils sont passés à table et ils ont bu whisky, le vin, l'armagnac, enfin, le champagne. Et puis, ils ont remis ça après le dîner, enfin, tout ça. Ils avaient leur compte, quoi, complètement. Alors, je dis, bon,
Et la semaine suivante, j'ai de nouveau ce, moi que j'appelle parce que j'avais demandé hors antenne son numéro de téléphone, hein, oui. À ce gaillard. Oui. Alors j'appelle, je dis docteur, voilà, bah, j'ai des petites choses à vous dire. Bah, dites-moi, vous étiez beurré complètement quand vous êtes arrivé chez Trois Gros. Alors bon, on était gays un peu, vous comprenez. Ah, je dis écoutez, ça va bien. Hein. Moi, je vais vous dire une chose. Primo, je vous interdis de nous écouter Europe 1, hein. C'est une interdiction totale. Deuxièmement, vous êtes abonné au magazine Gomillo, je vous radie des listes et je vous renvoie le prix de votre abonnement. Et puis voilà, au revoir docteur. Et quelques jours après, je reçois une lettre du médecin qui était presque tout penaud et qui dit « Oh, vous avez bien fait, c'est vrai, on n'aurait pas dû faire ça. »
Il a fait amende honorable.
Il a fait amende honorable, du coup, je l'ai réabonné, je lui ai fait cadeau quand même de son abonnement.
Vous êtes un homme de justice.
Marc Tronchot.
Christian Millot est aujourd'hui l'invité des enfants d'Europe 1 dans le studio Coluche de la rue François 1er. Je disais à l'instant, l'interactivité, le rapport direct avec l'auditeur, c'est la règle des émissions que vous faites, parce que vous en avez fait plusieurs. Il vous est arrivé notamment de faire une émission de jeu. Et on a retrouvé une trace de la première. Et c'est Henri Gault, votre complice, qui ce jour-là va essuyer les plâtres.
Bonjour, ici Christian Millot. Je démarre avec Henri Gault, un nouveau jeu dont le titre est significatif. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Nous allons jouer entre nous, Henri Gault et moi, et avec votre complicité. Cette semaine, j'ai enregistré l'interview d'une personnalité. À toi de trouver son identité. Nous allons donc diffuser mes 10 questions et les 10 réponses. Mais afin, Henri, que tu ne reconnaisses pas la voix de ce personnage, car il n'y aurait plus de jeu, nous allons couper le son dans notre studio et tu n'entendras strictement rien. Et tu pourras prendre connaissance des réponses dactylographiées faites par ce personnage. Et pour te donner un petit avantage, tu as sous les yeux une liste de 10 noms. Parmi ces 10 noms se trouve la personnalité que j'ai interviewée. Et que toi, tu dois deviner.
La liste que Christian Millot vient de me donner est composée de Annie Girardot, Clara Malraux, Madeleine Renaud, tous des noms en eau, Sylvie Vartan, Françoise Malé-Joris, Aznavour, Belmondo, Edgar Faure, Ionesco et Pierre Mondy. Dix noms.
Alors maintenant, notre jeu commence. Attention, Henri. Voici la première question. Êtes-vous plutôt salé ou sucré en matière de gastronomie ?
Je fais l'équilibre. Par exemple, je mange la viande sans sel, parce que je trouve que c'est bien meilleur. Un jour, je m'étais mis au régime, dans l'espoir de récupérer ma ligne, et on m'avait dit qu'il fallait supprimer le sel dans la viande, et le sucre notamment dans le café. J'ai appliqué ce système, j'ai abandonné le régime, mais alors j'ai découvert que la viande était bien meilleure sans sel, et que le café était bien meilleur sans sucre.
Alors, qu'est-ce que tu penses de cette première question et de cette réponse ?
Je pense deux petites choses, je ne suis pas très éclairé. La première, c'est que c'est une personne qui a voulu récupérer sa ligne un jour. Par conséquent, c'est peut-être pas une personne très mince. Aznavour, s'il maigrit encore, il va disparaître. Belmondo, c'est pas non plus un gros homme. Edgar Faure.
Il aime bien manger, hein, Belmondo, puisqu'on l'a rencontré plus souvent.
Oui, Ionesco, il est déjà plus rouillard. Pierre Mondy, il aime bien bouffer aussi. Mm-hmm. Sylvie Vartan, elle pourrait évidemment vouloir perdre du poids, encore qu'elle n'en ait pas trop. Pour le moment, je n'élimine vraiment que Aznavour dans un premier point.
Bien, maintenant, nous passons à ma deuxième question.
Bon, alors voilà, on a compris le principe du jeu et on a reconnu aussi la voix,
Edgar Faure, oui.
Bien sûr, la voix
d'Edgar Faure. Je ne sais pas si le nom d'Edgar Faure dit encore quelque chose.
Ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de l'Éducation nationale, ancien président du Parti radical.
C'est un homme très drôle, en même temps, très très amusant. J'ai eu l'occasion de faire un voyage, de le retrouver en Tanzanie. J'ai passé un très très bon moment avec lui. Et c'est un homme charmant. Pour un peu, il vous aurait fait aimer la politique, voyez-vous.
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'est un bon théorème, ça.
Moi, je crois, oui. Ouais. Ah oui, c'est... Absolument, oui. Absolument.
Dans les politiques, il y a, je repense à Edgar Faure, il y a beaucoup de fourchettes.
Oh bah oui, bien sûr. Il y
en a... Forcément, des gens qui sont dans leur circonscription et qui sont normalement très proches de leur terre.
Ce qui me fait rire, c'est avec le salon de l'agriculture.
Oui.
Alors, c'est absolument inénarrable, le salon de l'agriculture. Alors, il y a le défilé avec le président, et puis sa suite, etc. Et puis il y a tous les
candidats.
Et tous les gars qui attendent. Non, mais tous les types qui attendent pour eux. Alors, monsieur le président, vous parlerez bien un peu de reblochon. Alors, mes amis, le reblochon. Puis après, pof, un peu plus loin. Vous savez, toutes les spécialités qui passent, et il faut absolument. Il peut pas dire non merci, j'en veux pas, j'en mange pas. Il sera obligé d'en manger un petit morceau. Et c'est ça la vie politique. Alors moi ça me fait tant de rire absolument.
Alors précisément puisqu'on est dans les produits du terroir ou dans les produits qui n'ont plus de preuves à apporter sur leur qualité, on a commencé cette première émission tout à l'heure avec un document. On va conclure dans la même veine. Le document date de 1956. Europe numéro 1 est à peine née. Le journaliste est René Duval. Et le journaliste est très polyvalent à Europe numéro 1, puisque René Duval sera quelques mois plus tard l'auteur d'un son historique sur la guerre d'Algérie. Et ce jour-là, il enregistre les impressions d'un recordman du monde qui vient d'établir à 44 le record du gobage d'œufs cuits crus, c'est-à-dire d'œufs durs.
Ici René Duval qui vous parle d'Auvelais. À Auvelais, j'ai trouvé le champion du monde de dégustation d'œufs cuits durs. En effet, j'ai trouvé Monsieur Albert Grenier qui a battu le record, qui a mangé 44 œufs cuits durs en 30 minutes. Oui. Alors Monsieur Grenier, racontez-nous comment ça s'est passé. Parce qu'il y avait un concours, il y avait des festivités, oui. C'était la fête locale.
Oui, et là, vers 7 heures, on s'est mis à table tous ensemble. Et puis en mangeant, j'ai dit la coupe, c'est moi qui l'aura. Et j'ai été au bout de 20e mue, j'ai été un peu serré.
J'étais soufflé là.
Oui, j'étais soufflé, j'ai fait une fois, puis j'ai recommencé.
Et vous avez été jusque 44. Est-ce que vous aviez mangé dans la journée?
Non.
Est-ce que vous aimez les œufs durs?
Oh, ben, oui. Oui, non.
Sans ça, vous ne serez pas attelé à cette tâche.
Non.
Et vous avez dû boire en mangeant ces œufs?
Ah, on avait droit à un demi.
Un seul,
oui.
Un seul pour 44
ans. Oui, en face de moi, il y en avait 2-3, j'aurais bien voulu en prendre un, mais si j'aurais pris un demi, j'étais déqualifié.
Ah, bon. Et est-ce que ça fait un gros paquet, 44 œufs? Combien ça fait de kilos?
Ça fait 2,5 kg.
2,5 kg, oui. 2,5 kg sur l'estomac.
Oui.
Eh mon Dieu, et vous n'avez pas souffert de cette...
Non, rien de tout.
De ce repas,
Je n'ai pas été malade, ni rien de tout.
Et vous avez l'intention de reconcourir?
Le mois prochain, mais c'est pour manger du boudin.
Ah, c'est pour... Et vous allez attaquer le record du boudin, là?
Oui,
combien de mètres, le record?
Oh, c'est par kilo.
C'est par kilo, là? Oui. C'est pas par mètre?
Non, je vais... Dans moi-même, je pense que je vais manger 1,5 kg.
1,5 kg, ça fait combien de mètres, à peu près, 1,5 kg de boudin?
Ça, ça ne serait...
Vous n'avez aucune idée?
Non.
Eh bien, nous verrons ça, nous attendons M. Grenier à l'œuvre, nous verrons si le champion du monde de dégustation des œufs durs va battre le record de dégustation de boudin.
Ah bien, nous allons essayer.
M. Grenier, merci. Ici René Duval, qui vous a parlé d'Auvelais, Europe numéro 1.
C'est le livre Guinness des records avant l'heure. Hein.
Ah ben c'est des fondus comme ça, mais on en trouve un petit peu partout. C'est pas la meilleure image. La gastronomie, c'est pas ça, vous comprenez? C'est un choix, c'est une sélection, c'est pas de se jeter sur les... de ripailler comme des fous. Pour moi, ça n'a rien à voir. Je trouve pas ça très intéressant, pour être franc. Hein.
Oui.
C'est amusant, c'est pittoresque, mais voilà.
Vous m'avez dit, il y a quelques jours, Europe 1 fait partie de moi-même.
Bah, complètement. Là, depuis que je suis avec vous, j'ai l'impression, c'est un petit peu, je pense que ça doit être la même impression quand des années après, ce qui est mon cas, de retourner par exemple dans la cour de récréation de sa jeunesse et de réentendre les voix, de revoir les visages qu'on avait parfois oubliés. Vous voyez, et de se dire mais c'est vrai, oui, c'était un ami, c'était un copain en tout cas, et de se retrouver soi-même au milieu de tous ces souvenirs, c'est merveilleux, c'était une très bonne idée que vous avez eue, je trouve.
Un de ces souvenirs, c'est le studio où on est, non?
Oh bah oui, entre autres, là, c'est le studio Coluche, très souvent on passait ici, oui, avec Maryse, enfin on l'a eu,
Viviane Blassel,
des petits camarades de jeu, nous avons commencé avec Viviane Blassel, donc je conserve un excellent souvenir également, Et puis, il y a eu André Dumas aussi, à la fin, pour moi.
On va se séparer quelques jours, Christian, parce qu'on va se retrouver dimanche prochain avec de nouveaux documents d'archives et l'évocation encore de quelques grands personnages de la fin du siècle dernier que vous avez eu la chance et l'avantage de fréquenter, dont certains grâce à la station, grâce à Europe numéro 1. Donc, vous êtes d'accord, vous revenez en deuxième semaine?
Avec joie, oui.
Bon, salut Christian.
C'était Marc Tronchot.